Bonjour. Pas plus tard que ce vendredi, en me rendant au travail en voiture, j'écoutais la radio sur une chaîne d'information et j'ai entendu le témoignage d'une dame de 90 ans, rescapée des camps de la mort durant la Seconde Guerre mondiale. Et pour décrire ce qu'elle a vécu, elle a eu ce mot, c'était l'enfer. L'enfer. Il faut imaginer tous ces trains qui sillonnent l'Europe pour emporter vers la barbarie et la mort des millions de personnes. Et rien que pour la France, 75 trains de 1000 personnes en moyenne, des Juifs pour la plupart, mais pas seulement, entre 1942 et 1944. Ça, c'est pour la France, mais ces chiffres-là paraissent ridicules comparés à ceux qui ont eu cours dans le reste de l'Europe, et en particulier l'Europe centrale. Je ne sais pas si nous réalisons toujours bien le monde dans lequel nous vivons. L'immense majorité des gens que nous croisons chaque jour dans la rue est en marche pour l'enfer. C'est un flot continu de personnes qui se déversent en enfer à chaque seconde. Ce sont des trains entiers qui roulent à chaque instant vers ce lieu d'où personne ne revient. Et je ne sais pas si nous réalisons toujours bien l'enjeu de notre mission auprès de ces personnes, de notre mission en tant que disciples de Jésus, de notre mission en tant qu'Église. Et peut-être là, mes collègues prédicateurs qui sont chargés de prêcher sur les missions de l'Église ne vont pas être très contents, mais oublions une seconde, deux secondes, le mot « mission » et remplaçons-le par des termes plus laïques, comme « humanité », « fraternité », « solidarité ». Pouvons-nous vivre au milieu de notre génération en toute insouciance de ce qu'il attend ? Si quelqu'un avait été témoin de manière inopinée de ce qui attendait les déportés vers les camps de concentration et que de retour dans son ghetto, ils vivent comme si de rien n'était sans avertir la population, comment le jugerions-nous ? Je vous propose d'ouvrir nos Bibles pour un premier texte très court dans les Actes des Apôtres. Actes au chapitre 16 et au verset 9 et 10. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous » Et après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. « Je t'en supplie, Paul, secours-nous, viens nous secourir, viens par chez nous, passe chez nous, nous sommes perdus. » Et bien évidemment, c'est une vision. Ce n'est pas un Macédonien en chair et en os qui s'adresse à Paul et aucun croyant n'exprime en ces termes, ne s'exprime en ces termes pas plus à Paul qu'à l'un de nous. Mais c'est aussi ce qui fait son universalité. Ça peut être un Français, ça peut même être un Auvergnat, ça peut être un Clermontois, ça peut être un voisin, un collègue, un ami, un facteur, un livreur de pizza. Et en fait, tous les gens que nous croisons à chaque instant sont susceptibles de nous adresser ce message, non par leur propre conscience, mais c'est la nôtre qui nous adresse ce message. C'est nous qui savons, pas eux. S'ils savaient, ça atténuerait notre responsabilité, mais c'est leur ignorance même qui nous engage. Et donc, bien que ce Macédonien ne se présente pas à Paul en chair et en os, Paul en fait une responsabilité encore plus impérieuse pour sa mission d'évangélisation. L'évangélisation, une des missions de l'Église au sens large, une des quatre missions que nous avons retenues pour notre Église, une mission pour chaque croyant. L'évangélisation, ce n'est pas une option dans la vie chrétienne. Cette parole n'est pas de moi. Je l'ai entendue au cours d'une prédication dans les années 90, ça ne date pas d'hier. Et j'étais alors beaucoup plus centré sur l'enseignement et la communion fraternelle. Et j'accordais assez peu d'énergie et de temps au partage de l'évangile avec mes contemporains. C'était oublié un peu vite que si j'étais là à bénéficier de l'enseignement et de l'amour fraternel de mes frères et sœurs, c'est parce que d'autres avaient partagé avec moi l'espérance qu'ils avaient en Jésus. Et en premier lieu, ce ramoneur qui est venu chez mes parents pour l'entretien, pour rien d'autre en théorie que l'entretien des conduites cheminées, et puis en discutant, apprenant que j'allais rentrer à l'université, se met à me parler des groupes bibliques étudiants. Un peu plus tard, mon binôme, dans cette même université, qui me parle de la soirée qu'il a passée la veille au GBU, avec des yeux qui brillent, comme s'il venait d'y trouver ce qu'il cherchait depuis toujours. Et puis, je ne pourrais pas citer toute la chaîne de personnes qui m'ont accompagné patiemment, des mois durant, avant que je comprenne qu'en Jésus se trouvait la plénitude du salut sans que je n'y contribue en rien. Parmi toutes ces personnes, certains ont beaucoup parlé, d'autres très peu, mais toutes ont fait ce qu'elles avaient à faire et toutes ont dit ce qu'elles avaient à dire. Voilà, et je ne dis pas ça pour les idéaliser ou pour dire qu'au moins elles n'avaient pas peur de rendre témoignage, pas du tout. Et je n'en garde pas de souvenir particulièrement, mais très probablement qu'il y a eu des choses, peut-être dans leurs propos, qui m'ont choqué, des inconséquences dans leurs actes qui m'ont aussi choqué, mais je ne pouvais pas me méprendre sur l'importance que Jésus avait pris dans leur vie, sur le fait qu'elles avaient quelque chose qui me manquait. Et quelque chose, ce quelque chose m'attirait irrésistiblement. Mais Dieu n'est pas limité par nos désobéissances. Et si nous nous taisons, les pierres crieront. Mais il est mieux quand même qu'on n'en arrive pas là. Certes, on connaît tous des chrétiens qui sont venus à Dieu par une rencontre miraculeuse ou par la lecture seule de la parole de Dieu, gloire à Dieu, mais l'immense majorité de tous ceux qui composent l'Église, et je crois que la nôtre ne fait pas exception, sont devenus croyants, sont devenus chrétiens parce que quelqu'un leur a parlé. Et j'englobe là-dedans, évidemment, les enfants de familles chrétiennes. Et preuve en est, s'il en fallait encore, le témoignage récent de nos trois baptisés. Ils ont été, chacun de leur côté et dans son milieu, au contact de chrétiens qui leur ont rendu compte de l'espérance qui était en eux. Donc, dans la vie chrétienne, je redis ce que j'ai entendu il y a 25 ans, l'évangélisation, ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut choisir parce qu'on y est sensible ou doué, comme la musique ou l'entretien du bâtiment ou je ne sais pas quoi encore. L'évangile, l'évangélisation a toute sa place aux côtés de l'adoration, de l'enseignement, de l'amour fraternel, chacun pour sa part. Et parmi les innombrables textes bibliques qui évoquent l'évangélisation, je n'ai pas choisi ceux qui rapportent des actions d'évangélisation, qui disent comment tel ou tel s'y est pris, comment les équipes missionnaires se sont constituées, ou comment les gens ont été abordés. Et bien entendu, il y a de riches enseignements à en tirer, mais je suis certain que Dieu montrera à chacun et à l'Église la forme que prendra son action d'évangélisation. Selon ses dons, selon les ouvertures dont nous disposons et selon le public auquel nous nous adressons. Et je crois que les Actes des Apôtres nous donnent une large palette qui n'est pas pour autant exhaustive. Et je suis frappé d'ailleurs des trois choses que j'ai citées. Je suis frappé de la manière avec laquelle Dieu fait converger admirablement ces trois choses pour les mettre en situation. Nos dons, le public auquel nous adressons et les occasions. Et ça fait aussi partie des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Mais j'ai plutôt choisi un texte de Paul dans l'Épître aux Romains, car il pose vraiment les questions de base pour cette mission d'évangélisation. Il est un peu entremêlé avec la question du statut d'Israël, mais justement, il fait aussi ressortir la faillite du peuple de Dieu à témoigner de son appartenance à Dieu. Et donc, je vous propose de nous appuyer sur l'Épître aux Romains, au chapitre 10, à partir du verset 9. Romains 10, verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment donc croiront-ils? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà. Le premier verset, le verset 9, constitue tout d'abord la base doctrinale sur laquelle nous nous appuyons. C'est ce que nous croyons. C'est l'objet de notre foi, c'est ce que nous croyons pour nous-mêmes, déjà avant d'en parler à d'autres. Et selon ce texte, c'est parce que nous y croyons que nous sommes sauvés. Et c'est extrêmement simple, mais il ne faut pas s'y tromper. C'est extrêmement difficile pour bon nombre de nos contemporains, parce que trop simple précisément. Quel est ce Dieu qui ne demande rien en échange de mon salut, si ce n'est de croire en lui? Et je pense que pour aller au contact de nos contemporains, nous avons besoin d'être bien ancrés, de bien ancrer notre foi dans le principe qui est dit là. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Nous avons besoin d'être convaincus de cela. Une source ne peut pas couler plus haut, une rivière ne peut pas couler plus haut que sa source. Et si c'est moi qui viens vous vendre des pilules pour maigrir, ça ne va pas le faire. Verset 10, c'est fort, c'est très fort de ce que nous croyons pour nous-mêmes que nous annonçons celui en lequel les hommes peuvent croire pour notre salut. C'est fort, vraiment imprégné de ce que nous, de notre croyance, de ce que nous croyons vrai pour nous-mêmes, que nous pouvons annoncer celui en lequel les hommes peuvent croire. Et c'est pour tout le monde. Personne n'est trop loin, personne n'est trop indigne, que ce soit lui-même, que ce soit nous ou lui-même, qu'il jugions ainsi. Je me souviens de cet agriculteur chrétien qui prenait cette image. Quand on construit un mur de pierre sèche, par exemple, le long d'un chemin, on ne trie pas, on prend les pierres comme elles viennent. On prend les pierres comme elles viennent et on les met dans le mur. C'est l'évangélisation pour tous. Et au verset 14, Paul en vient au fait. « Pouvez-vous m'expliquer, dit-il, comment les hommes vont se tourner vers le Seigneur s'ils n'en ont jamais entendu parler. Et c'est vrai que nous sommes prompts, nous, chrétiens, à fustiger le monde pour son absence de sens spirituel, pour ses choix de société opposés à l'ordre divin, pour son matérialisme, matérialisme qui est en pleine mutation. Malraux en avait parlé à la fin du XXe siècle. Et après avoir probablement bien étudié les cycles des siècles précédents, il avait dit que le XXe siècle serait religieux ou ne serait pas. Pour l'instant, le XXIe siècle est, depuis 14 ans. Et pour ce qui nous est donné de voir de ces 14 premières années, ce XXIe siècle semble s'orienter à tenir les promesses de l'écrivain. Le matérialisme du siècle précédent n'a pas comblé le vide laissé par la mise à l'écart de tout ce qui est spirituel, du spirituel, et ce vide aspire toute forme de spiritualité, et c'est d'ailleurs un terrain très, très favorable, une ouverture extraordinaire pour l'Évangile. Cette semaine, par exemple, nous avons reçu au Conseil un mail du CNEF qui, faisant un bilan, nous dit que ce sont actuellement 35 églises évangéliques qui s'implantent par an, soit une tous les 10 jours. Mais ce vide aspire aussi ce que l'ennemi sait faire de mieux en matière de contrefaçon religieuse, parce qu'il a bien préparé le terrain par le mensonge du matérialisme, et que nos contemporains sont assoiffés, asséchés sur le plan spirituel. Et voilà. Si nous nous taisons, nous ne pourrons pas nous plaindre. Nous l'avons lu dans le sermon sur la montagne, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Si l'un comme l'autre viennent à faillir, nous ne pourrons pas reprocher au monde d'être fade et d'être sombre. Ce n'est pas une question de quantité. Très peu de sel donne du goût à un plat, relève un plat. Très peu de lumière chasse l'obscurité. Et avant de quitter ses disciples et de les lancer sur le terrain dans l'évangélisation, sur le terrain de l'évangélisation des nations, Jésus leur a dit: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et donc la saveur que nous portons en nous-mêmes, c'est la sienne, pénétrante, diffusante. La lumière que nous reflétons, c'est la sienne, rayonnante. Je revois encore, je parlais tout à l'heure des premiers chrétiens que j'ai côtoyés, et dans mon esprit, je revois des visages souriants et rayonnants. Avec le recul et en toute honnêteté, ils ne doivent pas être plus rayonnants ou plus souriants que ceux que j'ai en face de moi ce matin, mais la fadeur de ma vie intérieure, mes ténèbres intérieures, me faisaient capter le moindre atome de saveur, la moindre particule de lumière. Donc, nos contemporains sont, sur le plan spirituel, comme des éponges asséchées, prêtes à absorber la moindre particule d'humidité, assoiffées comme cette Samaritaine qui avait vécu une vie totalement dépourvue de sens et d'orientation. Troisième image. Dans l'évangile, dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 4, Paul dit ceci: « Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous déclarons serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a fait aussi briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons en nous-mêmes ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire ne soit pas attribuée, soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Voilà ce que Paul dit aux Corinthiens. Oui, nous sommes faibles. Oui, nous sommes inconséquents. Non, nous ne sommes pas toujours fidèles. Non, nous ne sommes pas des modèles. Mais enfin, quoi, c'est pas notre lumière qui brille en nous, c'est celle de Dieu, c'est celle de Jésus qui nous a arrachés lui-même aux ténèbres. Il paraît qu'il y a dans l'univers tout un rayonnement électromagnétique qu'on appelle le bruit de fond de l'univers et qui serait une réminiscence du Big Bang. Et il paraît aussi que ce bruit de fond représente quelques pourcents, 20% de la neige qu'on voit sur l'écran de notre téléviseur lorsqu'il n'est branché sur aucune chaîne. Et donc, si vous regardez votre téléviseur lorsqu'il ne capte rien, sauf tout ce qui passe, sans discrimination, 20% des points blancs que vous voyez sont en fait la manifestation encore actuelle d'un événement qui s'est produit il y a 13 milliards d'années. Nous n'avons pas vraiment de raison d'être inquiets à propos de l'efficacité de la lumière qui est en nous. Inquiétons-nous plutôt de lui faire obstacle, de ne pas lui faire obstacle et de la laisser agir. Les hommes en ont besoin, pas de nous, de Jésus, pas de notre lumière, mais de celle qui brille en nous depuis le Big Bang qui a été l'irruption du salut de Jésus dans notre vie. Les hommes en ont besoin, sous peine de se laisser éblouir, de se laisser aveugler par tous les lampions de la fête. Les hommes en ont besoin parce qu'à la fin de la soirée, la fête est finie. Je reviens à Romains 10, image suivante, et au verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et là, Paul nous parle donc de ceux qui prêchent la bonne nouvelle. Il ne faut pas s'y tromper, l'évangélisation n'est pas du seul ressort, le précaré des évangélistes. S'il est un fait que des hommes ont été choisis, comme Paul lui-même, et comme nous en avons toujours de nos jours, pour consacrer leur vie à l'annonce de l'Évangile, à la prédication de l'Évangile, il n'en est pas moins vrai que l'annonce de la bonne nouvelle est bel et bien du ressort de tous les croyants. Nous sommes tous envoyés dans le monde pour faire connaître le salut en Jésus-Christ. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Qu'ils sont beaux les pieds de l'apôtre Paul, mais pas que. Qu'ils sont beaux les pieds de, excusez l'expression, de la prononciation, j'ai beaucoup de mal avec ce nom-là, Charles Spurgeon, c'est ça, un grand prédicateur britannique du XVIIIe siècle. Qu'ils sont beaux ces pieds, mais pas que. Qu'ils sont beaux les pieds de John et Sarah Perkins, mais pas que. Qu'ils sont beaux nos pieds si nous leur emboîtons le pas, si nous entrons dans les défis qu'ils nous lancent, comme par exemple de distribuer ces 400 évangiles. C'est Sarah, lorsque le dernier culte qu'ils étaient avec nous, ils nous ont lancé ce défi de nous dire eh bien, quand je reviendrai, ce serait bien si ces 400 évangiles de Luc sont distribués. Et quand bien même nous le ferions pour nous débarrasser de ce carton ou parce qu'on veut faire plaisir à Sarah ou pour pas qu'on vienne nous en reparler encore dans 6 mois, eh bien ok, allons-y. Ces 400 évangiles seront quand même plus utiles répartis dans toute la ville de Clermont, dans tous les alentours, dans le quartier, que dans ce carton. On peut en parler cet après-midi, si vous voulez. Regardons Jonas, dans quelle disposition il était au moment où Dieu l'envoie à Ninive. Et d'autre part, le défi que Sarah nous a lancé n'est pas que nous soyons plus nombreux à son retour. Il n'est pas que nous ayons 10 baptisés de plus. Il est juste, et ça me semble jouable, que dans les 6 ou 8 mois qui viennent, ces 400 évangiles soient distribués. Quand on lit les récits de Paul, on ne voit jamais la motivation du nombre. Ce n'est pas ça qui motive Paul. Mais seulement être là où Dieu le veut, dire et faire ce que Dieu lui demande, en un mot, obéir. Et ce passage, loin de nous inciter à nous abstenir pour laisser ça à plus compétents que nous, devrait nous mettre du baume au cœur. Qui sont bons les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles pour accomplir notre mission d'évangélisation, mission personnelle comme croyants auprès de nos contemporains, mission collective en Église. Qu'ils sont bons nos pieds chaque fois que nous donnons un traité, un évangile, invitons au culte, relevons tel ou tel point qui permettra peut-être d'amorcer un échange avec une personne. Mon ramoneur m'a juste parlé des groupes bibliques étudiants. Même pas pour les vanter, même pas pour me dire que je ferais bien d'y aller. Il m'a dit, il y a des groupes, là où tu vas, il y a des groupes bibliques étudiants. Et bien que j'étais surpris qu'il me parle de ça, alors qu'il était en train de nettoyer les tout noirs, hein, les conduits de cheminée, déjà, sa lumière intérieure m'attirait. Et quand j'ai vu les affiches du GBU, j'ai compris que c'était ça dont il me parlait. Et quand mon binôme m'a invité un peu plus tard, j'étais déjà un peu préparé au choc que j'allais recevoir. Lequel de ces intervenants, qui sont, ces personnes qui sont intervenues dans ma vie, a eu conscience vraiment du rôle qu'il a joué ? Mon binôme peut-être, parce que lui a été témoin de ma conversion, mais le ramoneur, j'en sais rien, hein. Pour lui, les paroles qu'il a dites, c'est comme une bouteille lancée à la mer, sans savoir ce qu'il en adviendrait. Et au-delà de notre mission, le résultat ne nous appartient pas. Mais comme le dit, Paul au verset 18, au verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on doit faire entendre, c'est la parole du Christ. Tout au bout de la chaîne, on retrouve ce qui était au début, croire du cœur et confesser de la bouche le Seigneur Jésus. Image suivante. J'ai évoqué au début l'enfer de la déportation et des camps de la mort. Et en pensant à cette image, j'ai pensé à ces personnes qui se sont trouvées en situation d'en sauver quelques-uns. Personnes qui peut-être ont caché, des personnes qui risquaient la déportation ou qui étaient partantes pour la déportation, qui les ont fait passer à l'étranger, ou ces fonctionnaires qui les ont rayés discrètement de certaines listes de convois. Ils ne pouvaient pas les sauver tous, bien évidemment. Et ça les attristait profondément, mais pas suffisamment pour baisser les bras et s'en saisir comme prétexte pour ne rien faire. Tous ne seront pas sensibles à notre témoignage, et même probablement, très peu le seront, alors qu'à côté de ça, d'autres se moqueront de nous, peut-être plus ou moins ouvertement, en réponse à l'effort sur nous-mêmes que nous aurons fait. Et c'est vrai que c'est parfois un effort difficile, que nous aurons consenti pour eux à leur égard, mais contribuer chacun pour sa part à ce que quelques-uns soient sauvés. Et il est un fait que très peu de ceux à qui nous témoignons, de quelque manière que ce soit, très peu viennent véritablement à Jésus. Mais premièrement, rappelons-nous que ça a déjà été le cas pour Jésus lui-même. on n'est pas plus grand que notre maître. Qui était le plus, avait le plus d'arguments persuasifs dans sa besace? Qui était le plus droit, le plus conséquent dans son témoignage? Qui voyait le plus au fond des cœurs pour discerner ce dont chacun avait besoin? Et en fin de compte, de toutes les foules qui l'ont accompagné, qui l'ont écouté, qui ont entendu ses paroles, combien sont restés ses disciples? Si c'est le résultat qui motive notre travail, nous pourrons être bien déçus. Mais rappelons-nous que si très peu s'approchent de Dieu par l'évangélisation, l'immense majorité de ceux qui se sont approchés de Dieu, dont nous sommes ici, et dont nous ne sommes en fait qu'une toute petite représentation, l'immense majorité d'entre nous ont été évangélisés par des croyants, chacun pour sa part. Et au bout du compte, il nous est dit que dans le livre des Actes, que Dieu ajoute quand même à l'Église ce qui l'a sauvé. Je vais prier. Seigneur, nous comprenons que tu nous as donné pour mission d'évangéliser nos contemporains. Nous comprenons que cette mission est pour chacun de nous et que nous devons entrer dans cet apprentissage. Mais elle est aussi pour notre Église et nous comprenons que tu nous appelles à faire rayonner ta lumière dans notre quartier, dans notre ville et dans notre région. Nous voulons te demander pardon de l'oublier parfois, de ne pas y mettre la priorité nécessaire, aussi bien dans l'attention que chacun de nous porte à cette mission que dans les priorités de notre Église. Nous te demandons humblement de raviver en nous le zèle pour l'évangélisation et de l'entretenir. Donne à chacun d'entre nous la soif de te faire connaître à notre prochain. Et donne-nous ensemble la volonté de te faire connaître plus largement. Aide-nous à accomplir cette mission, chacun pour sa part. Amen. Et je vous propose pour terminer de chanter le chant « Toi, lève-toi ».